Le retour de Radio X.
En vacances.
Radio X.
Qu'est-ce qui se passe avec les écouteurs? Comme des avions qui se promènent d'un speaker à l'autre.
C'est la toune.
C'est la toune! 16h14, on est bien content d'être là avec la toune. Puis les auditeurs de Radio X au 418-670-9098. Si ça vous tente de participer à l'émission Rire de l'animateur, vous pouvez, hein, vous avez le droit. Encenser la co-animatrice Mélanie, vous pouvez, il y en a déjà qui le font. Puis rire avec Louis, là, parce que c'est un bon vivant, c'est aussi possible.
Voilà.
Là, c'est le moment sérieux de l'émission. Bon, oui, c'est le 420, là, c'est le 16h20, mais on a quand même pensé inviter une pour en parler. C'est Roger Ferland, assurément un de ceux qu'on entend sur les ondes de Radio X que j'apprécie le plus. Et aujourd'hui, vu que je suis à la barre de l'émission, ben c'est avec un grand plaisir que je lui souhaite bonjour, Roger Ferland. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Bonjour, Gary. Bonjour.
Oui. Il est enquêteur à la retraite, là, vous le savez déjà. C'est un ancien batteur de rock. Ça, vous le saviez moins. Hein? C'est un gars qui garde le beat. Mais en tant qu'enquêteur à la retraite, là, Roger Ferland, j'y vais comme ça d'emblée. Là, on vit présentement au Québec une chasse à l'homme. Peut-être que durant la pause, là, on a trouvé le fameux Philippe Benoît, là, 41 ans, recherché pour avoir assassiné son fils de 16 ans. Mais je suis pas mal sûr, Roger, qu'on est encore en train de le chercher. Comment ça se passe à l'interne quand on est un policier? Une chasse à l'homme, ça doit être une journée au bureau pas comme les autres.
Bien, c'est assez préoccupant en ce moment pour les gars terrain qui sont là, c'est certain, parce que partons de la base, c'est un gars qui a fait un meurtre au départ, ce gars-là. Maintenant, avant, il ne le disait pas. C'était un témoin. Au début, c'était un sujet d'intérêt. Là, c'est plus le cas. Ils ont eu le temps d'analyser la scène de crime. Ils ont eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et là, l'individu qui était d'intérêt, maintenant, ils savent que c'est un meurtrier. Mais c'est qui le profil de ce gars-là? Ben, c'est le profil d'un gars qui est un gars qui a des gros problèmes de santé mentale.
Énorme. Pour tuer son fils, là, je veux dire. Là, il n'y a pas pire que ça.
Il n'y a pas pire que ça. Il est connu schizophrène. Il a déjà fait des menaces dans le passé. Il est non médicamenté à ce qu'on comprend maintenant. C'est pour ça que les gens de la Sûreté du Québec en ce moment en donnent un peu plus d'informations et c'est très bien pour éclairer aussi la population, pour qu'on comprenne. Ce gars-là, prenez des pas légères si vous le croisez, là. Et il est drôlement désorganisé. Mais là, vois-tu, ils ont trouvé son véhicule.
Oui.
En ayant trouvé son véhicule, ben là, ils savent dans quel coin il peut être. Et c'est un individu qui est parti sans technologie encore là. Là. Pas de cellulaire sur lui, pas d'ordinateur.
On ne peut pas le géolocaliser, ça veut dire.
Il avait l'habitude de partir comme ça, hein, puis s'éloigner durant plusieurs jours en nature.
Oui, bien lui, c'est ça. Vous dessus, ça, c'est une des choses que maintenant on apprend, que ce gars-là avait cette force-là. Fait que il est capable de fonctionner un petit bout. Là. Fait que, d'après moi, tant aussi longtemps qu'ils vont trouver des indices en forêt, s'ils peuvent en trouver, que le gars peut être encore en vie puis qu'il se promène là-bas, ben il va falloir que je pense qu'il le traque en ce moment parce que son état s'améliorera pas dans les prochaines heures, je pense pas là.
Non, à moins de rencontrer une pharmacienne là, qui dit prends tes pilules là.
Ben non, c'est ça. Il faut qu'il soit en forêt. Là, en ce moment, on me dit que dans la région de Trois-Rivières, il pleut en ce moment. Alors, il est sous la pluie. Difficile pour lui. Puis quand tu m'as demandé au début comment ça se comporte comme policier, ben là, vois-tu, aussi les policiers sont là depuis le matin. Il fait quand même une vingtaine de degrés dehors. C'est inconfortable, t'es en forêt.
Il y a de la mouche.
Ça demande des remplacements, de la mouche, exactement. Ça fait partie des données. Tu sais, quand t'es à la plage, c'est beau, mais là, t'es pas à la plage, là. C'est dans le bois avec les moustiques. Là. Fait que c'est un peu tannant. C'est une traque assez sérieuse. Je pense qu'ils ont affaire là. Beaucoup de technologies qui vont être utilisées. Mais je pense que la faune, les agents de la faune pourraient être utiles pour eux. Puis si jamais ils trouvent des traces, des indices, ils pourraient après ça faire l'utilisation des maîtres chiens. Des outils très utiles dans ces contextes-là parce qu'ils traquent très vite une nouvelle odeur qu'il y a dans son environnement pour leur tracer. Puis les agents de la faune sont habilités aux autres puis habitués à identifier un animal qui a passé dans la forêt, qui a brisé des branches, qui a fait des petits dommages.
Ils vont savoir que c'est pas un orignal, là, c'est Philippe Benoît.
Non, c'est ça, exactement. Fait que ça fait partie des choses, je pense. Sûrement, mais dans le poste de commandement en ce moment, beaucoup de décisions qu'il faut qu'ils prennent avec les gens qui sont de la recherche en forêt versus toutes les ressources possibles disponibles. Beaucoup de choses à orchestrer en ce moment. Là, c'est des bons casse-têtes pour les gars, les filles qui sont là-dessus.
Des gens du public, mettons, qui sont dans ce territoire-là, qui peuvent connaître ce territoire-là, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer un peu dans le bois, un peu à la recherche du gars, tout en étant
prudent? Donner un coup de main là, aux policiers.
Ouais, où on se tient le plus loin de ça possible.
Aider les policiers, moi.
Oui, c'est ça. Non, non. Ben, vois-tu, regarde, le meilleur coup de main que je peux donner, si des gens dans le secteur ont des caméras, il y a plein de gars qui ont des caméras de chasse, par exemple.
Oui.
Des gens qui ont leur camp. Moi, je regarde, moi, ma résidence secondaire qui est en Beauce, ben, il y a des caméras. Juste d'aller les visionner, de voir s'il y a eu de quoi qui s'est passé, tu peux-tu jeter un coup d'œil? C'est déjà beaucoup. Ça, c'est déjà la première étape. Puis, pour le reste, j'ai envie de te dire, c'est le genre d'individu que j'aborderais. Comme policier, là, c'est sûr qu'il faut que tu l'abordes en espérant qu'il te donne une reddition, mais ça se peut qu'il ne se rende pas. Alors, il va falloir, parce que lui, il s'imagine que tu fais partie des extraterrestres qui vont déranger ouais, oui. ou de la puce qu'on veut lui enlever du cerveau, là, parce que lui, c'est ce qu'a manifesté déjà son psychologue, son psychiatre. Ben, ce gars-là, excuse-moi, tant qu'il n'aura pas replacé sa formule chimique dans sa tête, ça ira pas bien.
Donc, il y a un danger, là, M. Ferland. Il y a un danger pour la population, pour les gens de Trois-Rivières présentement. C'est peut-être pas le moment d'aller se promener en bicycle de montagne dans le bois là, tout seul.
Ben, exactement. Puis c'est le moment d'être vigilant, de dénoncer, de faire des appels, même 911 ou autrement, sur les lignes de conduite de dénonciation là, rapide pour le faire. Puis, encore là, j'espère qu'il est dans le secteur là-bas, parce qu'on m'a déjà expliqué que ce gars-là s'était déjà déplacé dans des secteurs beaucoup plus loin de chez lui à un moment donné.
Est-ce qu'il aurait, il aurait pu prendre un deuxième véhicule puis se ramasser, à Gatineau, là?
C'est ça. C'est pour ça qu'ils doivent sûrement considérer en ce moment, André et moi, est-ce qu'il y a eu des vols de véhicules dans le secteur? Est-ce qu'il manque des véhicules à quelque part?
Ouais.
Est-ce qu'il manque un 4-roues?
Bonne question.
Une bicyclette à quelque part, tu sais, que ce gars-là aurait pu repartir? C'est banal, mais ça ne l'est pas. Fait qu'en ce moment, dans le poste de commandement, les enquêteurs vont mettre sous l'effet d'un log, on appelle ça comme ça, un registre de commande, en fait, toute information qui rentre, une par une. Si Gary t'appelle, dit quelque chose, Louis, tu me calls, dit autre chose, mets le rappel pour quelqu'un d'autre.
J'ai vu un char louche, il y a un téléphone, on a trouvé un téléphone à terre, peu importe, là.
Peu importe qui, peu importe quoi, crédible ou pas, on le prend en note et on va le valider. Tu sais, souvenons-nous, la petite fille qui avait été retrouvée l'année dernière, ça a été quelques jours après qu'une dame a entendu, s'est rappelé, ça pouvait être insignifiant parce qu'on n'était même pas dans le même secteur. Ben, c'est en validant cette information-là qu'ils se sont rendus compte que ça fitait avec l'histoire que la maman racontait aussi. Parce que c'est pour ça qu'il faut partir des faits objectifs que la police détient. À partir de ça, elle va quand même valider toute information qui rentre. Mais il faut qu'il y aille à ce moment-là du plus probant aux hypothèses vers le moins probant. En utilisant les technologies qu'on possède, nous autres aussi, par contre, la police à cette heure, fait que sûrement que plus rapide de prendre un drone que de prendre un hélicoptère en ce moment dans certains périmètres.
Ouais, moins coûteux.
Mais encore là, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on les a? À la pluie, ça vole pas bien, là, tu sais.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses à avoir en tête en ce moment.
Oui, c'est ça. Bien, c'était ma question, justement, là, de hélicoptère avec détecteur de chaleur ou. De chaleur corporelle.
On a ça à la SQ.
Est-ce qu'on est drones équipé de aussi. Ça? Les drones maintenant
oui.
aussi?
Oui. Donc, à tous les moments comme ça, imaginez, la Sûreté du Québec, elle possède. Quand les services de police municipale en ont besoin, ils leur font la demande. S'il fallait que l'hélicoptère ne soit pas disponible, la Sûreté du Québec est autorisée, dans certains cas, en mesure d'urgence, de demander l'aide des forces armées également. Les forces armées en ont aussi encore, dépendamment, mais c'est toujours en fonction de la logique et du besoin que tu as. Il y a un coût qui est rattaché à ça. Mais sur les hélicoptères, oui, il y a des caméras infrarouges qui sont là, qui permettent de voir. Mais encore là, imaginez-vous, il y a une limite. Les infrarouges, si vous avez dans l'arbre une masse de feuilles, par exemple, X ou Y qui sont là, ben ça bloque tes champs. Là. C'est pas du rayon X là, que vous avez là. Il y a quand même une limite. Mais c'est pour ça que je pense vraiment d'avoir jasé avec des gens dans cette enquête-là. Ils sont obligés de revenir beaucoup à la base. Il va falloir qu'ils patrouillent le terrain, il va falloir qu'ils observent des traces, des indices officiels et à partir de là, qu'ils retraquent en fonction de certains secteurs puis qu'ils éliminent des périmètres complets d'être sûr que le gars n'est pas là, mais d'aller dans le périmètre voisin. Effectivement, c'est quand même intéressant. J'ai hâte qu'ils mettent la main sur ce gars-là parce que c'est pas un gars que je voudrais qu'on croise dans la rue tantôt, n'importe quel citoyen.
Dans un cas comme ça, est-ce que... Des fois, sans même trop le dire officiellement, les policiers vont pas juste regarder par terre, mais vont aussi regarder ce qui peut pendre après un arme, mettons?
Oui. Ça fait partie, effectivement, quand ils rappellent au gars quand ils font les battues. Imaginez-vous, partout où c'est que le gars a pu se dissimuler, parce que regardez, lui, il est sûrement avec son côté schizophrène, à ce que je comprends, un côté paranoïaque. Là. Fait que s'il est capable de jouer au jeu du chat à la souris,
il est capable de se cacher.
Ben oui, fait que C'est pour vrai, là, toutes les places où que tu peux rentrer gros comme un corps d'une personne ou dans un arbre grimper, le fait, puis moi, quand j'étais jeune, on l'a fait grimper dans les épinettes.
Ouais,
là, on se trouvait drôle, là, tu sais, mais on sortait de là tout gommé. Mais là, lui, d'après moi, dans sa logique, tout est possible. Fait que,
est-ce que la SQ a tiré des leçons de l'histoire de Martin Carpentier? Parce que là, on est c'est une chasse à l'homme. C'est pas la première fois que la SQ recherche un individu. Mais il y a quand même c'est pas du tout le même scénario. Là. On comprend qu'il n'y a pas de fillette en jeu et tout. Mais il y a quand même des choses qu'on a retenues de cette histoire-là, de cette malencontreuse épisode-là de l'histoire du Québec. Martin Carpentier qui avait tué ses jeunes filles et qu'on l'a retrouvé vraiment plus tard. Donc, j'imagine que la façon de rechercher un individu dans une forêt a évolué au fil des dernières années.
Oui, tout à fait. On est fort des expériences. Regardez, à chaque fois qu'il arrive un incident comme ça, qui est un peu dramatique, puis qui en vient jusqu'à même pas une, mais deux enquêtes du coroner, les recommandations, la Sûreté du Québec en a pris très bien connaissance, les a appliquées dans les heures qui ont suivi. J'ai eu des discussions dans le temps avec certaines personnes qui étaient très, très au fait de la situation et ils ont modifié beaucoup de pratiques. Par contre...
Les protocoles.
Il sait ça. Il y a des protocoles à modifier. Il y a des choses à faire autrement. Il y a des recherches à faire. C'est pas tout de faire des recherches juste pour la tape à l'œil, mais il faut être capable d'utiliser toutes les ressources terrain disponibles que l'on t'offre et des fois, sans aucun orgueil, les accepter. Mais je pense que ça, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé en ce moment. Puis les gens en place en sont très conscients de ce qu'il y a. Regardez un matin... Regardez l'évolution de l'enquête Silver. Il y a pas juste Enlevers, Silver. La population a été extrêmement utile ces dernières heures dans la région du Saguenay. Fait que c'est pour ça que, puis ça, c'est des ouvertures que la Sûreté du Québec a mis en place maintenant d'avoir fait ça. C'est pour ça que, je vous dirais, oui, on apprend beaucoup de ça. Tous les services de police apprennent aussi. Mais évidemment, oui, on a remarqué que celle-là, il y a eu quelques accros dans le passé, mais là, ouais. Je pense qu'on essaie de faire le maximum avec ce qu'on possède.
Roger Ferland, j'ai vu dans l'actualité, en fait, la semaine dernière, je pense que je ne suis pas le seul, en fait, à l'avoir remarqué, une solide opération policière qui mettait en vedette le SPVQ, mais aussi le SPVM dans le secteur de Beauport, chez Metal Beauport, en fait. Mm-hmm. 4 arrestations qui ont été faites mardi dernier. On a trouvé pas mal d'affaires, là. 1 kilo de coke, 3 kilos de cristal meth, 200 000 pilules de speed, 200 000. 30 000 pilules de dilodide, de la MDMA pour se geler pendant 2 ans. Quand même, c'est un lieu qui était connu des milieux policiers. J'aimerais que vous, peut-être, j'aimerais vous entendre en fait, Roger, sur cet événement-là de la semaine dernière.
Ben, en fait, à ce que j'en ai compris, possiblement que le SPVM devait être en enquête active sur des individus, puis à un moment donné, tu te rends compte que les individus se rendent à un endroit. Tu valides à ce moment-là avec les autorités locales, ce qu'ils ont fait avec sûrement Québec et d'autres personnes qui peuvent donner de l'information ici, ce qui se passait. Ils leur ont dit oui, adresse connue, lieu connu. Oui, les propriétaires sont plus tout à fait les mêmes, ça a changé de main, mais ça a déjà été une plaque tournante importante, Metal Beauport. Là. C'était de là, en fait, que M. Bouchard, à l'époque, a donné plusieurs meurtres à Gérald Galland.
Raymond Bouchard, c'est un ancien rock machine. C'était à lui, ça, Metal Beauport, à une certaine époque, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Puis en fait, oui, il était un associé de Rock Machine. Il n'a jamais été membre officiellement de Rock Machine.
Un sympathisant, comme on dit.
Ouais, c'était un solide collaborateur prête nom qui agissait avec eux, mais qui a été une des personnes, souvenez-vous, dans l'enquête, autorisateur des meurtres. Okay. Alors, faisait partie des gens qui ont financé, qui enquêtaient ça un peu. Alors, puis là, quand tu te rends compte que c'est qui les nouveaux acheteurs, ben les nouveaux acheteurs de ce garage-là, c'est d'autres gens connus dans le monde du trafic des stupéfiants encore là également. Fait que 1 + 1 = 2. Alors là, les policiers de la sûreté ont dit, on vient de découvrir un endroit. Est-ce qu'il y a d'intérêt d'y aller maintenant? Ils ont demandé un appui des gens. Fait que très, très bon coup de filet. Des fois, à un moment donné, il faut profiter de ces opportunités-là en ce moment. Des fois, ça arrive qu'on on surveille quelqu'un à une adresse, on le voit rentrer, débarquer avec un paquet, un colis.
Oui.
Est-ce que c'est un livreur d'Uber? Est-ce que c'est un livreur d'Amazon? C'est niaiseux, mais c'est ça.
Oui, oui.
Mais quand on file un trafiquant de drogue, généralement, quand on surveille quelqu'un de ce calibre-là, ça change la donne.
Quand on s'est pointé, Roger, sur le lieu de Metal Beauport, pensez-vous que les policiers étaient au courant de ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire 3 kilos de cristal meth, 1 kilo de coke puis 200 000 pilules de speed, ou ils sont allés un peu à tâtons puis ont fait cette découverte-là en disant « OK, on n'est pas venu pour rien, là ».
Je te dirais pas à tâtons, mais je te dirais il y avait assurément des motifs raisonnables de croire qu'il y avait des stupéfiants en place. Qu'est-ce qu'il y allait avoir? Combien il y allait en avoir? Ça, c'est la deuxième chose. C'est différent. Le restant, tu découvres souvent une caverne d'Aldali Baba. Tu n'es jamais sûr de ce que tu as sur les lieux. Mais là, vois-tu, c'est un Metal Beauport, ce commerce-là, il y a des presses à métal. donc pour les autos, mais des, qui dit presse à métal est souvent associé aussi presse à cocaïne. Alors,
presse à pilule. Presse
à pilule. Fait que là, tu tombes dans la deuxième catégorie à te dire, va falloir qu'on fouille un petit peu, ça se peut qu'on trouve d'autres choses. Puis, fait que c'est pour ça qu'ils ont demandé assistance dans pareilles circonstances. Peut-être qu'ils auraient pu y rentrer quelque part puis d'en arrêter un ou deux, mais sur les lieux, ils ont fait ça sécuritaire parce que c'est ce qu'ils avaient besoin de faire.
Il y a eu 4 arrestations. Là.
Ben oui, c'est ça. Ça a pris plusieurs enquêteurs sur les lieux puis la collaboration de plusieurs agents pour maîtriser la sécurité des premières minutes. Puis après ça, interroger ces gens-là et fouiller tous les lieux avec mandat, avec, évidemment, parce que même si tu découvres qu'il y a ça, après ça, il faut que tu articules tes motifs à dire voici pourquoi on va aller là, voici pourquoi on va vérifier ça, et les juges t'autorisent. Mais il faut que tu aies des motifs, mais sûrement qu'il y avait des motifs suffisants parce que ça a été une percussion fructueuse qui a duré plusieurs heures.
Ça, une grosse saisie comme ça du côté humain des policiers. Tu sais, moi, je suis un chasseur. Quand je tue un orignal avec un petit panache, je suis content. Mais quand je tue un 50 pouces, c'est la fête au village. Est-ce que pour les policiers, de faire des grosses saisies de même, tu sais, des fois aux États-Unis, on les voit, ils prennent des photos avec les chiens, puis là, ils étalent tout. Est-ce que c'est comme le fun, c'est un party après, on va-tu prendre un verre le soir,
puis on se dit
félicitations, man, good job?
Oui, ben, c'est sûr que je fais des farces souvent. Moi, j'étais comme un petit peu un chien de Pavlov, là. Quand tu me faisais sentir la bouffe, puis que ça sentait le pot à quelque part, j'étais full content. Je savais qu'on allait trouver, et ma satisfaction première était atteinte. Je ne vous cacherai pas. Alors, c'est un peu pareil, c'est sûr. Après, par contre, il faut que tu sois, mais je te dirais, logique, là, parce que tu as des rapports pour les heures qui viennent après à faire. Mais encore, là, fait que oui, c'est sûr que quand on a la chance de se féliciter, une claque dans le dos, un bon support...
Un good job, après, les gars, là.
C'est ça, une bière après, c'est toujours agréable, tu sais. Mais pendant le travail, il y a beaucoup de tâches à faire. Mais oui, tu as 100% raison. On reste des humains quand on est conditionné à ça. C'est ça qu'on veut aussi, faire ces coups-là, là, à un moment donné. Puis en ce moment, des fois, c'est la difficulté. On perd de vue que, en ce moment, nos criminels sont souvent jeunes, sont mineurs. Alors, t'arrêtes ça, tu vois, t'as un gars de 14-15 ans devant toi, tu dis, Caroline, tu pensais te pogner le caïd qui était relié au cartel des Medellin, là. Oublie ça un petit peu, c'est pas toujours ça que t'en as
en toi. Sous-traitant, tu sais.
Mais d'où l'importance, pareil, de le faire comme du monde puis d'avoir de l'impact avec eux, parce que c'est, oui, c'est important ce que tu dis là. Et oui, on a une petite fierté, je te cacherai pas, là, tu sais, je m'arrêterai de te dire qu'on est des gens qui... Non, on ne fait ce poids pas et on arrête, c'est pas vrai du tout.
Non, vous avez des armes. Roger, ouais. On a pogné quand même 3 kilos de cristal meth dans cette saisie-là. Une drogue qui était inexistante dans les rues de Québec il y a pas si longtemps. Moi, je me souviens, l'an dernier, on avait fait un moment en nom de nous deux. Et puis, on avait parlé d'une grosse saisie qu'il y avait eu à Québec, cristal meth. Puis, on se posait la question, est-ce que c'est pour le marché de Québec? Est-ce que c'était pour l'importation à l'extérieur? Là, on comprend qu'avec le marché de Québec, là, 3 kilos, c'est tout à fait raccord avec ce qui se passe. Là. On a eu, la semaine dernière, des reportages faisant étalage de tout ce qui se passe dans la basse ville de Québec, particulièrement dans Saint-Roch, les pipes à crack, la consommation de drogues comme le crack puis la cristal meth. On a même prévu un nouvel endroit pour la consommation sécuritaire là, de ces consommateurs-là. Oui. Mais donc, on comprend que le 3 kilos de cristal meth, c'était pour nous autres. Là. Je veux dire, c'était pour ici.
Oui. Vraiment. Puis c'est pour ça que, oui, c'est un peu décourageant, mais oui, c'est nécessaire de faire cette opération-là. C'est pour ça que on s'en est souvent parlé, les gens avec l'équipe, avec toi aussi. Là, je vise souvent prévention, mais il y a des moments qu'il faut être répression. Il faut que tu sortes ça de la rue. Ça n'a pas de sens parce que 3 kilos de cristal meth, avant, ils en mettaient juste un peu dans la méthamphétamine, dans les pilules qu'on retrouvait.
Oui.
Mais là, ils en ont 3 kilos. Ça veut dire que ou ils le détaillent en cristal meth comme ça, pur,
oui,
puis que les gens le consomment dans une pipe à crack,
oui,
ou bien non, tu l'as pour en fabriquer d'autres milliers de pilules à côté en mettant une petite proportion dans certaines pilules qui vont être mises en circulation. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qu'il y avait sous les yeux, qu'est-ce qu'ils ont découvert, et ont-ils découvert un mini laboratoire de transformation ou autre chose, mais à chaque fois que tu as des produits précurseurs d'importance comme ça, faut que tu les sortes de la rue. Absolument, là, le fentanyl, le cristal meth, c'est d'une très haute toxicité.
La petite cochonnerie, on va le dire.
Ça rend personne intelligente. T'as 100% raison dans la rue, c'est clair.
Des grosses quantités de drogue de même cachées dans une business comme ça, tu sais, dans une entreprise qui a pignon sur rue. Est-ce que souvent, est-ce que c'est bien caché? Est-ce qu'on parle de pièces secrètes ou t'arrives dans le bureau du boss puis la brique traîne sur la table?
Ça, tu peux avoir de n'importe quoi dépendamment à quelle étape ils sont. Mais généralement, il y a une très grande discrétion. Puis, je vais te dire, les criminels, en toi et moi, on a juste ça à réfléchir à un moment donné. Alors, nous autres aussi, quand on fait les fouilles, il faut être capable de penser un petit peu comme eux. Dans les faits, là, très, très, très souvent, on passe à côté. On ne le sait jamais, parce que le gars s'en vante pas après, sauf qu'on rapprend quelques temps après qu'il y avait du stock à tel endroit par d'autres personnes, souvent, qui nous disent. Alors, dans certains cas, quand il y a la chance de le dissimuler, c'est compliqué, oui. Tu sais, là, c'est une cour à scrap. Essaye de me dire s'il se cachait dans un pneu, dans une aile d'auto.
Ah oui.
C'est facile de savoir. Lui, il dit à tel gars, va-t'en dans le Buick Electra, prends la roue de secours dans le coffre, puis le stock est dedans.
Ouais.
Mais lui, il le sait où il l'a mis. C'est pareil souvent. Fait que les gens qui ont des stashes comme ça, qui ont des cachettes,
des stashes,
ça devient complexe. Ça devient complète beaucoup. Ouais.
Métal Beauport, on en a parlé, là, c'est l'ancien commerce de Raymond Bouchard qui était associé au Rock Machine. Mm-hmm. Mais c'est aussi le dernier lieu du meurtre, le lieu du dernier meurtre commandé par Gérard Galland.
Mm-hmm. Effectivement. Oui, Gérard Galland en avait parlé dans ses confessions, dans le cadre du projet Baladeur. Puis également, on pouvait, ceux qui ont vu le film, le film qui était sur lui, mais que je vous dirais assez fidèle, même si...
Vous l'avez vu, Roger, ce film-là?
Oui, je l'ai vu. Ça m'a quand même fasciné, parce que même s'il nommait des adresses différentes ou des choses, je reconnaissais chacun des scénarios, parce que c'était vraiment collé à la réalité. Puis indirectement, ben quand on a vécu la guerre des moteurs ici à Québec, il y avait le projet Baladeur qui vivait en parallèle de ce qu'on avait, nous autres, qui était dans le cadre du projet Shark. Nous, on avait le Sylvain Boulanger qui donnait l'information sur les meurtres de Québec et un peu partout au Québec. Et à l'inverse, vous aviez la concurrence qui était les Rock Machines. Puis Gérald Galland s'est assis, fait que par défaut, on est resté chacun dans des équipes séparées, mais je voyais les dossiers en parallèle. Et c'est pour ça que j'étais au courant de plusieurs meurtres qui étaient orchestrés de l'autre bord. Puis là, on avait, nous autres, l'équipe dans tout notre projet qui était là aussi, du côté des Hells. Mais intéressant pour nous comme enquêteurs, mais c'est triste de voir qu'il y a eu une guerre sanglante.
Ouais.
Pour ça, des fois, on parle de l'ancien temps, puis qu'il y avait une morale, j'ai envie de vous dire...
Il y a un code d'honneur.
J'ai envie de vous dire, Gary, que, ouais, ben des fois, là, le code d'honneur, il était très loin. Là,
Gérard Galland était client chez l'Essor Bessic sur le boulevard Pierre-Bertrand. Moi, j'ai travaillé longtemps à celui de Sainte-Foy, mais on a eu des échanges de mécanos à un moment donné, puis il y a un mécano qui venait, qui s'appelait Pierre, un excellent mécano, puis c'était le mécano de Galland en question, puis il dit, il venait au magasin, il faisait réparer son Cannondale, il était bien chic, puis à un moment donné, on a compris que c'était un tueur à gages. C'est un gars qui bégayait, c'est un gars qui était super timide. Jamais on aurait pensé que ce cycliste-là, qui était comme tous les autres, là, qui venait s'acheter des cuissards, des casques, des gants, était à la solde là, du crime organisé.
Effectivement. Puis oui, puis même, ça a été même, je vous dirais, cocasse pour certains policiers qui ont eu à le surveiller par moments. Ils disaient, écoutez, êtes-vous sûr que c'est le tueur? Il part en vélo toute la journée.
Ouais.
Il run, il fait 100, 200 kilomètres.
Ouais, c'est un solide rider, là.
En groupe avec du monde, tout à fait. Puis il y avait un vélo de très grande valeur. Ça en fait partie, c'est drôle, fait un peu juste un cocasse.
Ouais.
Dans les demandes qu'il a faites, quand il avait demandé, lui, je peux-tu avoir mon vélo dans ma cellule?
Là, ah, ouais.
Tu vois le genre, parce que lui, en moins, ça lui libérait son esprit, puis il faisait de l'activité physique.
Ben avec une base d'entraînement, c'est sûr que une cellule devient un peu plus intéressante.
Ben oui, c'est ça. Puis je pense que ça a fait partie aussi des avantages qui ont confiné, qui n'étaient pas des gros avantages pour un tueur, mais tu dis, garde au moins, pendant que tu fais ça, tu ne fais pas d'autre chose. Oui. Oui, on peut te donner ton vélo à 5 000 dans ta cellule pour que tu t'amuses.
Ah, je pense que c'était même un vélo à 10 000 En terminant, Roger, je suis allé voir dans les différentes personnes qui vous ont interrogé dans les dernières années. J'ai vu vous avez fait une entrevue avec Mme Gagnon là, du Journal de Québec. Mais tout ça pour dire que j'ai su que vous aviez été agent de sécurité lors de Québec 84. C'est un peu comme ça que vous êtes rentré dans la police là, par la porte d'à côté. Là, il y avait des voiliers en fin de semaine à Québec. Est-ce que vous êtes allé admirer ces beaux voiliers-là? Parce que, bon, moi aussi, j'ai travaillé à Québec 84, mes parents aussi, ceux qui ont vécu cet événement-là, cet été-là, on a une connexion avec les grands voiliers. Quand ils viennent à Québec, on est un peu plus interpellés, on va dire. Êtes-vous allé faire un tour en fin de semaine avec votre blonde ou peu importe?
Non, je suis pas allé. En fin de semaine avec ma blonde, j'ai resté sur le paddleboard puis sur le kayak.
C'est bon.
Mais oui, ça m'avait fasciné beaucoup. T'as vraiment raison. Puis à l'époque, on avait été des constables spéciales.
Ouais,
on avait embauché juste pour l'été pour la police. Mais ça avait été un grand événement. Mais j'avais appris à découvrir ça. Effectivement, je ne connaissais pas les grands voiliers là, dans de mon enfance. Mais on avait eu des petits cours là-dessus, des leçons. 2 mois, 3 mois, c'était quoi?
C'était une autre période. En 84, vous n'aviez pas pu rentrer dans la police, Roger Ferland, parce qu'il y avait pas, on n'embauchait pas. Il y avait trop de finissants à Nicolette. Fait que là, vous aviez décidé de votre agent de sécurité en attendant de devenir police. Puis ben là, la vie étant ce qu'elle est, vous êtes devenu enquêteur. Puis quasiment une vedette là, ici. ici à Québec. Là. En tout cas, du moins, un auteur apprécié. Là.
Ben, merci. C'est agréable. Merci pour vos bons commentaires.
Roger Ferland, si on veut en apprendre davantage sur votre vie, ou plutôt votre œuvre, ben, vous êtes l'auteur, en fait, avec Maria Morani, de Opération Scorpion, un livre qui est sorti il y a quelques années. Est-ce que vous travaillez sur un livre présentement, Roger? Est-ce que vous êtes en train de nous préparer quelque chose?
C'est drôle que vous me dites ça. Parce que, oui, dans le cadre de mes cours, par contre, j'ai travaillé avec un confrère qu'on a guidé sur un livre entrevue. Ouais. C'est lui qui m'avait approché de le livre entrevue. Comment faire de bonnes entrevues avec les citoyens? Fait qu'avec Alain Harvey, on travaille sur ça en ce moment. Alain a quasiment complété sa partie. Je vais m'en servir dans mes cours en communication à l'école parce que j'ai réussi à mettre des mots tangibles sur tout ce qui en était. Mais là, il m'a guidé un peu. Fait que là, je me suis risqué de refaire une enquête de base. C'est quoi une bonne enquête de base? Qu'est-ce que ça prend? Il y a une méthode scientifique qu'il faut que tu mettes en place.
C'est sûr.
Mais après ça, il y a toute la posture de l'enquêteur. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a eu plein de livres d'écrit ces enquêtes. Mais je ne veux pas raconter une histoire d'une enquête X ou Y. Mais la base, parce que j'ai à le partager aux élèves quand on leur enseigne.
Rappelez-nous, vous enseignez où, Roger?
Au cégep Garneau, en technique policière.
Bon, on ne peut pas s'inscrire, il faut passer par faut être admis en technique policière pour assister à vos cours. Là, fait.
Ben, il vous reste une deuxième option. À l'Université Laval, la faculté de droit, j'enseigne également là un peu les techniques en entrevue à la fonction publique.
Ah oui?
Tous les enquêteurs de la fonction publique, que ce soit, il y a eu toutes sortes de tous les ministères, en fait, ont des équipes d'enquêteurs.
C'est sûr.
Que ce soit le CI3S,
Il y en a même au DGEQ, là.
Il y en a, exactement. J'ai eu un affaire dans plusieurs. Puis grâce à ça, l'université, il l'offre grand public, mais le programme en enquête. Mais là, voyez-vous, dans le cadre de ça, ben là, j'ai été sollicité avec eux. Alors, le livre que j'écris, je veux qu'il soit adaptable à eux également. Et même un dirigeant d'entreprise, par exemple, qui a des enquêtes à faire pour son personnel.
Son personnel, oui.
Exactement. Un abus, du vol interne.
Je comprends très bien. J'ai eu affaire à ça à une certaine époque.
C'est ça. Parce que la base est la même. La base est la même, puis je te dirais à la blague, on parlait de musique tantôt.
Oui.
Ben, Do-ré-mi, fa, sol, la, si, tes notes ne changeront pas. Mais c'est quoi le style? C'est quoi le ton? C'est quoi le demi-ton? Là, c'est la réponse après. Fait que, si on réexplique aux gens c'est quoi la base d'une enquête, je pense qu'après ça, adaptez-le à votre besoin. Oui. Mais il y a assez d'exemples et de façons de faire là-dedans pertinentes, je pense, pour le faire. On est dans ça, là. Je suis en train de finaliser ça un peu.
Ah, c'est le fun d'écrire en juillet, hein? C'est maintenant.
Mais l'après-midi, je prends ça off. Je m'en vais prendre l'air un peu à l'extérieur. Ouais. Mais effectivement, oui, je fais ça. Garde, ça va m'aider dans le cadre de mes cours un peu. Puis on le vendra après ça grand public par la suite. Également.
Merci, Roger, d'avoir pris une pause de votre pause cet après-midi pour parler aux auditeurs de Radio X. Ça a été vraiment un moment intéressant. Puis je suis sûr que vous allez avoir des auditeurs libres là, à la rentrée à l'Université Laval. Comme par hasard, des gens qui veulent assister au cours de Roger Ferland là, sur les enquêtes. Bonne fin de journée puis bonne fin de mois de juillet. J'espère qu'on vous reparlera bientôt, Roger Ferland.
Merci beaucoup. Merci à la gang.
Merci. Enquêteur à la retraite du SPVQ, auteur de Opération Scorpion, un homme à découvrir, Roger Ferland. Nous, on prend une petite pause et au retour de celle-ci, encore plus de Gary et de Radio X.
Le retour de Radio X.
418-670-9098.
Radio X.